Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur Le Nouveau Chemin. Les Nouveaux Chemins hésitent quotidiennement entre philosophie et sagesse, en compagnie de Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Alexiane Braun et Jules Salomon, à la lecture stoïcienne des textes cette semaine, Sophie Angèle, à la réalisation vertueuse, Philippe Baudouin, avec aujourd'hui à la prise de son, un sage super-héros, Tristan Gratalon. À 10h50, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez François Nudelman pour son journal de la philosophie. François discutera aujourd'hui avec la philosophe Catherine Larère à propos de son dernier livre, « L'éthique de la vie chez Hans Jonas », paru aux presses universitaires Paris-Sorbonne. Suite et fin aujourd'hui de notre semaine sur les Sophies de la philo. Après la sophistique lundi avec Barbara Cassin, la Sophie compagne de l'Émile de Rousseau mardi dernier avec Céline Spector, et les aventures de Sophie en romancie, ou la rencontre entre philosophie et roman au XVIIIe siècle hier, en compagnie de Colas Duflot, il est nécessaire pour que le portrait de Sophie soit complet de proposer aujourd'hui une réflexion sur la sagesse. C'est donc de Sophia que nous allons parler, ou plutôt c'est d'elle que nous allons partir, car l'éthique stoïcienne prend bien soin de distinguer le philosophe du sage. Si le philosophe est amoureux de la sagesse, c'est donc qu'il ne la possède pas, et en cela, il mesure l'écart qui le sépare de la perfection. Mais faut-il devenir parfait pour être sage? La sagesse est-elle du ressort humain? Et suffit-il de vouloir être sage pour le devenir? Une vie n'y suffit peut-être pas, mais au cours des 50 prochaines minutes, c'est le philosophe Thomas Benatouille, l'auteur d'un excellent ouvrage sur la pratique du stoïcisme, qui vient tenter de répondre à ces questions avec sagesse et philosophie. Bonjour Thomas Benatouille.
Bonjour.
Ce qui différencie la philosophie antique de la philosophie moderne, c'est que dans la philosophie antique, ce ne sont pas seulement Chrysippe ou Épicure qui sont considérés comme des philosophes parce qu'ils ont développé un discours philosophique, mais aussi tout homme qui vit selon les préceptes de Chrysippe ou d'Épicure. Un homme politique comme Caton d'Utique est considéré comme un philosophe et même comme un sage, bien qu'il n'ait rien écrit ni rien enseigné, parce que sa vie a été parfaitement stoïcienne. Il en est de même pour des hommes d'État romains comme Rutilius Rufus et Quintus Mucius Scaevola Pontifex. Ce ne sont pas seulement des exemples de moralité, mais ce sont des hommes qui vivent tout le stoïcisme, qui parlent comme des stoïciens, qui voient le monde comme des stoïciens, c'est-à-dire qui veulent vivre en accord avec la raison cosmique. La philosophie antique propose à l'homme un art de vivre. Au contraire, la philosophie moderne se présente avant tout comme la construction d'un langage technique réservé à des spécialistes. Dans l'Antiquité, la philosophie est un exercice de chaque instant. Elle invite à se concentrer sur chaque instant de la vie, à prendre conscience de la valeur infinie de chaque moment présent si on le replace dans la perspective du cosmos, car l'exercice de la sagesse comporte une dimension cosmique.
Thomas Benatouille, lorsque Pierre Hadot, dans l'extrait de texte qu'on vient d'entendre retiré de ses exercices spirituels et philosophie antique, publié pour la première fois en 1993, dit que la philosophie est un exercice de chaque instant et que l'exercice de la sagesse comporte une dimension cosmique, est-ce qu'il fait ici une association, voire une identification entre philosophie et sagesse qui n'est pas représentative de la philosophie ou de la pensée stoïcienne?
Il fait une association, effectivement, un rapprochement assez fort entre philosophie et sagesse. Et l'insistance sur la dimension cosmique et l'exercice de chaque instant, ça, c'est tout à fait bien représenté dans le stoïcisme. Et comme Hadot le dit, c'est vrai que ça apparaît aussi dans d'autres écoles, les épicuriens, par exemple. Mais c'est vrai que Hadot a tendance à insister sur ce qui rapproche les écoles plus que sur ce qui les distingue. Ça donne en quelque sorte plus d'importance à la sagesse qu'à la philosophie. Ce qui caractérise les philosophes, d'ailleurs leurs adversaires les ont souvent critiqués pour ça dans l'Antiquité, c'est qu'ils sont tout le temps en désaccord. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils s'opposent, ils polémiquent entre eux. La philosophie est une sorte de champ de bataille, et particulièrement la philosophie antique. Et l'insistance sur la philosophie antique comme sagesse tend parfois à gommer ces désaccords et à insister plutôt sur des idées assez générales qui sont communes aux différentes représentations du sage que donne chaque école.
Mais alors, si la philosophie n'est pas un simple savoir, mais engage une véritable transformation de soi, quelle différence alors entre le philosophe et le sage ?
Le sage, c'est celui qui a réussi la transformation, qui est arrivé au bout du chemin, alors que le philosophe... il essaye, il n'est pas absolument sûr de lui, il est dans les exercices, la réflexion, la recherche. Hein. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un enjeu de débat important dans l'Antiquité, puisque il y a des traditions philosophiques qui insistent plus sur cette dimension de la philosophie, cette dimension inaboutie de la philosophie, et zététique, comme disent les sceptiques, hein, c'est-à-dire lié à la zététésis, à la recherche. Hein. Et donc, ceux qui insistent le plus là-dessus, ce sont justement les sceptiques sous leurs différentes formes. Et il y a des philosophes qui n'hésitent pas à donner un portrait assez précis du sage, à donner un objectif assez concret aux philosophes et à considérer que la philosophie doit aboutir à la sagesse, même si ce n'est pas forcément facile, voire possible. Et là, il y a des débats entre ces philosophes. Hein. Les stoïciens et les épicuriens ont beaucoup été critiqués comme des dogmatiques, en particulier parce que leur sage paraissait une sorte de surhomme absolument irréalisable. Et non seulement irréalisable, mais aussi pas tellement enviable comme figure de l'humanité du fait de sa certitude absolue, de son omniscience, de sa fermeté ou toute caractéristique qui semble inaccessible à l'homme, inaccessible en ce monde à d'autres écoles philosophiques.
Alors que le sage stoïcien a aussi, on y reviendra plus tard, hein, pour fonction de s'insérer au sein d'une vie sinon sociale, du moins au sein de la cité. Le sage stoïcien n'est pas renfermé comme dans une citadelle intérieure, pour reprendre une expression utilisée par Pierre Hadot, complètement coupé du monde dans sa tour d'ivoire et de manière à communiquer avec une espèce de dieu qui est transcendant. Au contraire, le sage stoïcien, s'il peut être difficilement accessible, met en œuvre tout un une série de pratiques, d'usages qui lui permettent justement de ne pas être simplement dans un idéal abstrait, mais dans une manière de vivre à proprement parler.
Effectivement, bon, là il y a deux problèmes. Il y a la question du retrait du sage, où là il y a beaucoup de débats dans l'Antiquité là-dessus, et effectivement il y a des philosophes qui critiquent l'idée que le sage serait abstrait de la vie quotidienne ou abstrait de la vie commune, qu'il aurait un mode de vie exceptionnel ou qu'il ne fréquenterait pas les autres hommes. Bon. Et dans ce débat-là, les stoïciens sont plutôt du côté de l'engagement du sage, la participation du sage à la vie sociale. Le sage n'est pas censé être quelqu'un qui méprise les autres hommes ou qui vit très très différemment des autres, par exemple parce qu'il est une sorte il se comporte comme une sorte de... je ne sais pas moi, de mage ou même de philosophe enfermé dans son école, de spécialiste enfermé dans une école. Bon, il y a ce débat-là. Et puis après, il y a la question de l'accessibilité de l'idéal. C'est-à-dire tout en étant quelqu'un qui vit au milieu des autres hommes et qui participe aux affaires sociales, politiques, le sage stoïcien est quand même une figure extrêmement... exigeante, qui est parfait, qui ne connaît jamais aucune passion, qui ne se trompe jamais, n'est soumis à aucune vicissitude, qui se maîtrise toujours, etc. Et c'est là où les autres écoles considèrent que ça, c'est impossible, voire que ce n'est pas souhaitable. et qu'ils attaquent le modèle du sage stoïcien.
Mais en quoi est-ce que ici la figure du sage stoïcien se distingue de la figure de l'homme vertueux chez d'autres penseurs qui précèdent ou même qui ont succédé aux stoïciens? Si par exemple le sage, d'après les stoïciens, est quelqu'un de vertueux qui doit mettre en œuvre une forme de prudence, hein, ici la vertu au sens presque d'un art de la vie, c'est ce que dit Aristote dans l'éthique à Nicomaque. Les stoïciens vont peut-être y ajouter d'autres composantes qui sont présentes aussi d'ailleurs chez Aristote, comme la tempérance, la justice, le courage. Mais pour Aristote, en dernier lieu, le bonheur, parce que le sage est quand même celui qui accède à cette forme de bonheur, et dans la contemplation. Chez les stoïciens, le sage est plutôt dans une forme d'activité, mais qui paraît tout aussi difficile à atteindre dans son absoluité. C'est-à-dire que la figure même du sage, on ne l'atteint pas juste par un saut qualitatif, c'est une histoire de degré qui est très difficile, dont il est difficile de très mesurer l'avancée et les progrès. Donc comment est-ce que la figure du stage stoïcien se distingue de l'homme, disons, vertueux et heureux du livre 10 de l'éthique à Nicomaque d'Aristote ?
Oui, alors là, c'est bien de mentionner Aristote parce que là, on est au cœur du problème. Je veux dire, d'abord, sur la distinction entre l'homme vertueux et le sage stoïcien, bon, là, il y a un débat fondamental qui est celui de l'autosuffisance de la vertu, comme disent les textes antiques, l'autarkeia, hein, c'est-à-dire que Aristote est connu pour avoir soutenu que la vertu ne suffit pas à être heureux. Parce que si on n'a pas un certain nombre de biens extérieurs ou corporels qui vont avec, pour Aristote, c'est une lubie de philosophe qui parle pour défendre une thèse, comme il dit, hein, en particulier dans le livre 1 de l'éthique à Nicomaque, que de soutenir qu'il est heureux. Hein. Donc concrètement, si vous êtes vertueux, mais que vous êtes pauvre, méprisé, en malade, vous ne pouvez pas être heureux, pour Aristote. Alors que la grande thèse stoïcienne, hein, c'est celle de l'autosuffisance du sage, la vertu suffit au bonheur. Hein. Et c'est ça qui a été beaucoup critiqué chez les stoïciens, c'est-à-dire à partir du moment où il a la vertu, rien ne peut lui retirer son bonheur. Hein. Et donc, c'est pas les stoïciens qui développent le fameux exemple du sage torturé, là, du sage dans le taureau de Phalaris, c'est les épicuriens qui ont aussi ce genre de thèse, mais sous une forme différente. Mais voilà, donc là, il y a un débat, disons, éthique fondamental, hein, sur la question de savoir si le bonheur dépend, hein, de la fortune, de circonstances extérieures qu'on ne maîtrise pas, hein, puisque notre niveau de vie, notre santé, etc., ce n'est pas quelque chose qu'on peut complètement maîtriser. Et puis alors, il y a une autre question que vous avez abordé en parlant du livre 10 de l'éthique à Nicomaque, c'est effectivement le fameux débat vie active, vie contemplative, comme on dira au Moyen-Âge, hein, ou vie théorétique, vie pratique. Bon. Donc là, c'est un débat très intéressant. Effectivement, bon, comme vous savez, il y a une grosse hésitation d'Aristote. Il a l'air de recommander la vie pratique d'abord, puis finalement, il dit la vie la meilleure, hein, c'est la vie contemplative. Et là, les stoïciens ne sont pas d'accord. C'est pas qu'ils recommandent la vie pratique contre la vie contemplative, c'est plutôt qu'ils ont une conception de la théorie et de la pratique comme complémentaires. Et donc, ils n'ont pas l'impression que le fait de contempler est une vie, le fait de contempler est une vie en quelque sorte distincte de la vie pratique et qu'il faudrait choisir entre les deux. Hein. Ils ont l'impression, au contraire, que le sage, c'est précisément, et là, c'est on retrouve un peu l'extrait de Pierre Hadot qui a été lu au début. Le sage, c'est celui qui arrive à connecter son activité quotidienne avec sa conscience, sa connaissance du fonctionnement du tout. Hein. Et c'est précisément ça, la sagesse, c'est dans la connexion des deux. Et donc, on voit bien que la théorie, et en particulier, là, on pense à la théorie au sens la connaissance de la nature, la connaissance du cosmos, même si ce n'est pas la seule théorie, est directement liée à la pratique, c'est-à-dire l'action, y compris l'action politique. Et il y a des textes de Marc Aurèle où il n'arrête pas de dire ça. Hein.
Tu demandes une chose utile, nécessaire même à qui désire arriver vite à la sagesse. Tu veux que je divise la philosophie et que je décompose ce vaste corps en plusieurs membres. En effet, la connaissance des parties nous amène plus facilement à celle du tout. et plut au ciel, tout comme la face de l'univers se développe à nos regards, que la philosophie put nous apparaître tout entière, spectacle beau comme l'univers. Certes, elle ravirait à elle l'admiration du genre humain et lui ferait quitter tout ce qui lui semble grand aujourd'hui, ignorant qu'il est de la vraie grandeur. Mais ce bonheur n'étant point fait pour nous, force nous est d'observer ici, de la même façon que nous contemplons les secrets de la nature. L'âme du sage, il est vrai, embrasse l'universalité de ce grand tout. Son œil le parcourt aussi rapidement que fait le nôtre la voûte céleste. Mais quant à nous, qui avons à percer tant d'épais nuages et dont la vue s'arrête à un horizon si prochain, il est plus facile de nous exposer les détails, puisque l'ensemble nous échappe encore.
Il n'est pas prêt.
Yoda. Je suis prêt, je... Ben, je peux être un Jedi. Ben, dis-lui que je suis prêt.
Prêt, tu crois être. Comment peux-tu savoir? Depuis 800 ans, je forme des Jedi. À mon seul jugement, je me fie pour savoir qui doit être formé. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond, l'esprit le plus sérieux. Celui-ci, depuis très longtemps, je l'observe. Et toute sa vie, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon. Jamais eu l'esprit là où il était, à ce qu'il faisait. L'aventure, l'agitation, ces choses, un Jedi ne les désire point.
Ajuster l'observation des détails à la perception d'un grand tout. Seul le sage peut percevoir l'univers dans son ensemble. C'est Sénèque qui l'écrit dans ses lettres à Lucilius, Thomas Ben Atwill. C'est donc la recette, ou plutôt les composantes de la sagesse stoïcienne. Et c'est précisément ce que ne parvient pas à faire Luke Skywalker dans Star Wars, puisque Yoda lui fait le reproche de ne jamais avoir l'esprit à ce qu'il fait, d'être toujours dans la projection d'un futur, d'un ailleurs, et donc dans une forme d'impatience et de colère. C'est ici exactement ce qu'il y a à changer pour Luke Skywalker de manière à devenir Jedi, c'est-à-dire sage au fond.
Oui, c'est vrai que dans le modèle là, du devenir Jedi, il y a beaucoup d'analogies avec la philosophie antique. Je doute que ce soit la philosophie antique grecque qui a inspiré George Lucas quand il a fait le film. C'est peut-être plutôt des traditions orientales, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analogies, non seulement dans le parcours, l'attitude qui est réclamée du Jedi, en particulier la concentration sur le présent, cette espèce de calme, le refus de l'agitation. Bon, là, ce sont des traits typiques du sage stoïcien ou épicurien, et puis même dans les sortes de positions éthiques. Hein, j'ai été surpris quand j'ai vu les premiers films, enfin ceux qui ont été faits plus tard, là où effectivement la grande thèse finalement la grande thèse selon laquelle, qui explique comment Anakin Skywalker devient Dark Vador, hein, c'est parce que en fait il est trop attaché à ses proches, et ça et donc en fait il souffre du fait qu'ils ont des problèmes, hein, sa mère et puis ensuite sa femme, et donc ça ressemble beaucoup à certaines thèses stoïciennes.
D'après les stoïciens, est-ce un problème d'être attaché à ses proches, comme vous dites, puisque selon l'éthique stoïcienne repose sur le concept d'impulsion première, ce qu'on nomme oikeiosis, je crois en grec, c'est-à-dire que nous sommes portés comme par une impulsion, donc de manière spontanée, à se conserver, et même cette impulsion, la conservation, s'étend au-delà de nous-mêmes, aux personnes aussi qui nous entourent. C'est pour ça que le stage stoïcien n'est pas isolé de la foule, mais s'insère au sein de la cité. Donc, dans cette perspective-là, l'intérêt, le soin accordé aux autres est naturel. Donc, ce n'est pas un obstacle.
Non, mais ça, alors là, c'est tout le problème. C'est tout le problème de l'éthique stoïcienne. C'est quelque chose qui apparaît très nettement chez Épictète. C'est-à-dire qu'à la fois, le sage est au service de l'humanité et donc il va sans cesse agir pour favoriser la tendance naturellement sociable de l'homme et pour maintenir la communauté humaine. Ce sont des termes qui reviennent très souvent, l'amitié entre les hommes. Ce sont des termes qui reviennent très souvent, par exemple, chez Marc Aurèle. Et en même temps, et pour les stoïciens, c'est pas du tout, c'est inséparable, même si ça paraît très paradoxal. Et en même temps, il doit pas être attaché de manière, passionnelle ou émotionnelle aux autres. Parce que ça, c'est ce qui produit les dissensions et c'est ce qui va entamer son bonheur. Hein. Et donc, là, il y a une thèse étonnante. Hein, et Épictète dit souvent qu'il ne faut pas souffrir de la perte d'un proche, ce qui, en particulier pour nous, est souvent très choquant. Il ne s'agit pas de souffrir de la perte d'un proche, mais ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire qu'on est dans une retraite et soit dans une sorte d'égoïsme, soit dans une sorte d'indifférence à ce qui se passe autour de nous parce qu'on est replié sur je ne sais quelle contemplation ou je ne sais quelle étude.
Bah, ça implique quand même l'idée d'une forme de contrôle des passions, comme si le sage est celui qui exerçait rationnellement son être humain, son rapport au monde uniquement de manière rationnelle, en essayant de contrôler ou de diminuer, voire d'anéantir toute forme de passion qui viendrait se retourner contre lui.
Oui, c'est ça, voilà. Alors, il y a des débats aujourd'hui entre les spécialistes pour savoir si le sage stoïcien est si, comment dit-on, est dans l'apathéia que ça. Enfin, il y a cette thèse, le sage est dans l'apathéia, c'est-à-dire l'impassibilité, hein, parce que l'apathie en français, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, il est dans l'impassibilité. En fait, il peut avoir certaines émotions, comme la joie, ce genre de choses, mais elles doivent être strictement, effectivement, contrôlées par la raison. Hein. Et ce que les stoïciens refusent absolument aux sages, c'est les passions comme une sorte d'emportement. Hein. Il y a des textes de Sénèque très beau dans le traité sur la colère où il dit que la passion, on ne peut pas en faire usage, c'est quelque chose qui vous emporte. Et là aussi, par exemple, c'est un désaccord profond avec Aristote, hein, qui considère que les émotions ont un rôle positif à jouer et que même c'est en un certain sens immoral de ne pas éprouver certaines émotions dans certaines circonstances.
Mais parce que pour Aristote, il y a une partition entre la partie rationnelle de l'âme et la partie irrationnelle de l'âme. Or, chez les stoïciens, tout est englobé derrière, sous la partie uniquement rationnelle.
Effectivement, oui.
Ce qui implique une forme de... Enfin, dans la logique stoïcienne, dans la logique du sage stoïcien, il y a une forme d'ascétisme qui est demandée de la part du sage. Il ne faut jamais être dans une situation qui nous fasse perdre le contrôle de nous-mêmes.
Mmh. Oui, ça dépend ce qu'on entend par ascétisme. C'est-à-dire, si c'est le sens originel de... l'ascésis, hein, l'exercice, l'entraînement, oui, hein, même si en un sens l'entraînement il est plus caractéristique du philosophe que du sage, puisque le sage il a fini son entraînement. Donc oui, effectivement, il y a une maîtrise permanente de lui-même par le sage, ça c'est indubitable. Après, il faut faire attention, parce que l'ascétisme, on entend souvent ça, hein, au sens de l'opposition de l'âme et du corps, parfois on entend ça au sens du dénigrement du corps ou quelque chose comme ça, ça c'est quelque chose qui n'est pas présent chez les stoïciens, c'est plutôt l'idée de maîtrise de la raison sur l'âme et sur le corps qui est très importante.
Eh bien, mes amis, dit Pausanias, comment allons-nous faire pour boire sans avoir trop de problèmes ? En ce qui me concerne, je dois vous avouer que je ne me sens pas très bien après ce que j'ai bu hier et que j'ai besoin d'un répit. Du reste, j'imagine que vous êtes, la plupart d'entre vous, dans le même cas, car vous étiez là hier. Voyons donc de quelle façon nous pourrions boire sans avoir trop de problèmes. Quelle chance, me semble-t-il, dit Eryximaque, ce serait pour nous, c'est-à-dire pour moi, pour Aristodème, pour Phèdre et pour les autres qui sont ici, que vous, ceux qui, pour ce qui est de boire, avaient le plus de capacité, ayez maintenant renoncé à le faire, car nous autres, nous ne sommes jamais de taille. Pour ce qui est de Socrate, je fais une exception. Il peut en effet faire les deux choses, boire ou ne pas boire, si bien que quel que soit le parti que nous prendrons, il s'en accommodera. Étant donné qu'aucun de ceux qui sont ici ne me paraît disposé à boire beaucoup de vin, peut-être arriverai-je à vous paraître moins agaçant en vous dirant la vérité sur l'ivresse. Pour moi, assurément, il est quelque chose que la médecine a fait apparaître clairement, et c'est que c'est l'ivresse qui est dommageable pour l'homme. Aussi me garderai-je de souhaiter boire de mon plein gré outre mesure et de conseiller à quelqu'un d'autre de le faire, surtout s'il a la tête encore lourde de la veille.
Bonsoir.
Hey.
Alors, elle a des trucs corrects ?
Oh oui, Steph est à fond dans le pinot noir et le syrah. Steph !
Oui ?
On peut prendre toutes celles qui nous plaisent ?
Oui, oui, peu importe. Excepté le Richebourg.
Un Richebourg ? Elle a un Richebourg ? Par Bacchus, mais alors j'avais complètement sous-estimé Stéphanie. Oh, le petit Jésus en culotte de velours, regardez-moi ça.
Je pense que ça, c'est une bouteille pour nous.
Andrew Murray. Ah bon, d'accord.
Quel joyau précieux vous avez dans votre cave ?
Oh, J'ai pas de cave à proprement parler, disons plutôt, comment dire, quelques bonnes bouteilles dans une armoire à vin. Non, j'ai jamais vraiment eu les moyens pour ça, alors j'achète bouteille par bouteille, vous voyez. Mm-hmm. J'ai aussi des trucs que je mets de côté, c'est vrai, je crois.
Oui.
Que... Le bijou, c'est un 1961, c'est un cheval blanc.
Vous avez chez vous un cheval blanc de l'année 61?
Ouais, exact.
Allez le chercher.
D'accord.
Sans blague, vite, allez-y.
D'accord, j'irai.
Et puis le 61 atteint son apogée maintenant, n'est-ce pas? Je l'ai lu quelque part.
Non, c'est vrai, oui.
Il est peut-être déjà trop tard. Qu'est-ce que vous attendez?
Je sais pas, peut-être la bonne occasion avec la bonne personne, vous savez. Je l'avais mise de côté pour mon 10e anniversaire de mariage, mais...
Le jour où on ouvre un cheval blanc 61, c'est la bonne occasion.
La question de la bonne occasion et du bon moment pour ouvrir une bouteille, telle qu'elle est posée ici dans le film Sideways d'Alexander Payne de 2004, est une question qui serait ici, enfin qui nous permet de continuer d'affiner la distinction entre l'éthique stoïcienne et l'éthique aristotélicienne, puisque le bon moment, le kairos, c'est Aristote qui le thématise. Une action va être morale, y compris si elle est, et d'abord surtout, si elle est effectuée au bon moment. Ce n'est pas la question stoïcienne qui, sans être complètement indépendante des circonstances extérieures, ne se pose pas la question du bon moment, mais plutôt peut-être celle, alors on peut y revenir, Thomas Bennett-Wild, non pas de l'ascétisme, mais de la modération. Le texte de l'extrait du banquet de Platon que j'ai lu juste avant montrait ces personnages qui, au lendemain d'une cuite monumentale, se demandent comment faire pour continuer à boire et pouvoir suivre le rythme de ceux qui vont continuer à boire et présentent Socrate comme étant celui qui peut absolument s'accommoder du fait de boire ou de ne pas boire comme restant dans une forme de stabilité et donc de tempérance d'esprit. Est-ce que Socrate ne serait pas finalement le modèle du stage stoïcien ici ?
Alors, c'est vrai que le Socrate du banquet est en partie un modèle du sage stoïcien. Vous vous souvenez aussi qu'à la fin du banquet, le seul qui reste debout et qui rentre chez lui, c'est Socrate.
Et voilà.
Et
c'est celui qui a le plus bu, en plus.
Et voilà, c'est ça. Hein. Et donc, cet exemple est invoqué dans un débat... un peu obscur, mais intéressant pour comprendre le statut du sage stoïcien, qui est celui de savoir si le sage peut être ivre. Et effectivement, les stoïciens disent non, le sage ne peut pas être ivre pour des raisons éthiques qu'on peut résumer en disant que si le sage était ivre, il ne se maîtriserait pas lui-même. Et donc là, il y aurait des conséquences problématiques étant donné ce que doit être le sage. Hein. Il ne serait pas fiable, etc. Bon. Et alors, un des exemples qui est invoqué dans ce cadre-là, c'est effectivement Socrate à la fin du banquet. Ça ne veut pas dire que les stoïciens considéraient Socrate comme un sage. Certains stoïciens tardifs considèrent Socrate comme un sage, mais les premiers stoïciens ont tendance à penser que quand ils donnent des exemples du sage, c'est plutôt Ulysse, Héraclès, des personnages comme ça, mais ce ne sont pas des personnages qui ont vraiment existé. C'est seulement après, à l'époque impériale, des gens comme Sénèque donnent Caton comme exemple du sage. Voilà. Et donc là, on a cette question effectivement intéressante. Intéressante. Est-ce que le sage peut être ivre ? Et on voit bien que c'est lié à ce problème de la dépendance à l'égard des circonstances extérieures. C'est-à-dire, est-ce que la sagesse, la lucidité, la maîtrise de soi du sage peut être entamée par quelque chose comme l'ivresse, qui est un effet physiologique de l'alcool ? Et là, il y a des débats. Et alors, la solution du problème, ce n'est pas forcément celle que vous avez indiquée, à savoir la modération. Parce qu'on voit bien dans l'extrait du banquet que vous avez lu que Socrate, s'il demeure lucide, c'est pas parce qu'il boit peu, c'est parce qu'il a des capacités mystérieuses qui lui permettent de bien tenir l'alcool, en quelque sorte. Et effectivement, vous avez des stoïciens qui soutiennent le même genre de thèse, c'est-à-dire le sage ne sera pas ivre, même s'il boit, et même s'il boit beaucoup, parce que, alors là, on touche à des questions pour nous déconcertantes qui sont liées aussi au matérialisme stoïcien, mais parce qu'en fait, la sagesse a une telle prise, y compris physique, sur l'âme du sage, qu'elle permet à cette âme de résister, hein, c'est un peu le thème de la citadelle intérieure, aux vapeurs de l'alcool, on pourrait dire, hein, qui détournent les autres gens, les autres personnes qui ne sont pas sages de tous leurs engagements et qui leur font faire un peu n'importe quoi. Voilà. Alors,
je vous en prie, allez-y.
Ouais, il y a aussi des stoïciens qui semblent plus réalistes, qui disent oui, effectivement, si le sage boit trop, il va être ivre. Mais ça ne veut pas dire qu'il va perdre sa sagesse. Hein. C'est juste qu'il y aura une sorte d'éclipse temporaire de la sagesse.
Mais alors c'est ça qui est quand même difficile à comprendre. C'est où se situe la sagesse ? Est-elle, une fois qu'elle est acquise, est-elle définitivement acquise ? Et ne consiste-t-elle qu'en une forme de contrôle absolu sur son corps, ses passions et tout ce qui permet, tout ce qui détourne l'homme d'une forme de concentration ?
Non, elle ne consiste pas seulement dans une forme de contrôle, c'est un aspect important, hein, parce que le fait de suivre la raison, pour les stoïciens, ça veut dire que la raison, elle change pas d'avis tout le temps. Donc si on suit la raison, on doit se tenir à un certain nombre de principes, hein, d'où l'importance du contrôle, de la maîtrise de soi, etc. La sagesse ne se réduit pas à ça, parce qu'elle implique aussi un accord avec la nature, hein, qui n'est pas une source de normes différente de la raison, parce que la nature elle-même est rationnelle. Effectivement, la sagesse, elle implique aussi une connaissance de la nature, un accord avec les événements qui ont lieu dans le monde, etc. Bon, voilà. Donc ça c'est vrai, et c'est important de ne pas la réduire simplement à une sorte de contrôle de soi qui serait érigé en une sorte de fin en soi un peu étrange.
La durée de la vie humaine, un point. Sa substance, fuyante. La sensation, obscure. Le composé corporel dans son ensemble, prompt à pourrir. L'âme, un tourbillon. Le sort, difficile à deviner. La réputation, incertaine. Pour résumer, au total, les choses du corps s'écoulent comme un fleuve. Les choses de l'âme ne sont que songes et fumées. La vie est une guerre et un séjour étranger. La renommée qu'on laisse, un oubli. Qu'est-ce qui peut la faire supporter ? Une seule chose, la philosophie. Elle consiste à garder son démon intérieur à l'abri des outrages, innocent, supérieur aux plaisirs et aux peines, ne laissant rien au hasard, agissant sans feinte ni mensonge, n'ayant nul besoin qu'un autre fasse ou ne fasse pas telle action, acceptant les événements et le sort, dans la pensée qu'il vient de là-bas, d'où il vient lui-même, et surtout, attendant une mort propice à la pensée, puisqu'elle n'est rien que la dissolution des éléments dont tout être vivant se compose. Mais s'il n'y a rien de redoutable pour les éléments à se transformer continuellement, pourquoi craindrait-on le changement et la dissolution totale ? Car c'est conforme à la nature. Or, nul mal n'est conforme à la nature.
Aerion epeon archo malonado Archinò το τραγούδι μου με θέρια λόγια Μα γι' αυτό κι απαλά
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h33, c'est le dernier temps pour nous de notre série d'émissions consacrée aux sophies de la philo. Et aujourd'hui, c'est de sagesse stoïcienne que nous parlons en compagnie de Thomas Benatwil, qui est avec nous en duplex depuis Nancy, où il enseigne la philosophie antique. Thomas Benatwil est aussi l'auteur de « Faire usage, la pratique du stoïcisme », publié aux éditions Vrin.
Κάποιος θα βρίσκεται να με θυμάται εμένα Κάποιος θα βρίσκεται να με θυμάται εμένα Αερίων επέων Αερίων επέων Άρχο μαλωνά Αρχινό το τραγούδι
Thomas Benatouil, la question de la connexion intime du savoir cosmologique et de l'entreprise de modification de soi que vous aviez rapidement présentée juste avant que l'on écoute cet extrait des pensées de Marc Aurèle, interprété par la comédienne Sophie Angel, pose les problèmes inhérents à l'éthique stoïcienne à nouveau frais, surtout en ce qui concerne le sage, puisque si le sage doit être conforme non seulement à sa propre nature, mais à la nature, au cosmos qui l'entoure, alors quelle part de liberté lui reste-t-il ? N'est-il pas soumis à la nature qui l'entoure ? Et auquel cas, il serait difficile de penser un espace de ressaisie de soi et donc de liberté individuelle, et qui là, du coup, s'exclurait de la nature.
Oui, c'est le problème classique qu'on pose à l'éthique stoïcienne, c'est-à-dire s'il s'agit... pour employer une expression qui n'est pas chez les stoïciens, mais qu'utilisera Nietzsche, d'amour du destin, hein, amor fati, est-ce qu'il reste vraiment de la liberté ? Alors, bon, on ne peut pas reposer tout le problème dans sa complexité maintenant, mais un point important qu'on oublie souvent dans cette affaire, c'est que, oui, effectivement, il s'agit d'être en accord avec la nature et donc, comme c'est bien dit dans le texte de Marc Aurèle qui a été lu, d'accepter tous les événements qui arrivent et de les accepter pas seulement comme arrivants, hein, mais aussi comme intégrés dans un plan rationnel. Bon. Puisque dans le passage, il est dit que ce qui arrive vient de là-bas, d'où tu viens aussi, pour résumer. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'affinité entre la cause qui produit les événements, hein, et qui est Dieu ou la raison, pour les stoïciens, et moi-même, en tout cas la partie de moi-même que je suis censé préserver, que Marc Aurèle appelle dans ce passage le démon intérieur, et qui est aussi la raison. Bon, voilà. Maintenant, le point qu'on oublie souvent et qui permet d'introduire un peu de jeu dans ce schéma apparemment complètement fataliste, c'est que on ne sait pas exactement quel est le plan de la raison, hein, et que donc, il faut quand même effectuer dans ce qui arrive une sorte de... Alors, j'allais dire un tri, mais c'est sans doute pas la bonne expression. On accepte tout ce qui arrive et on ne cherche pas, on se plaint pas de ce que ça arrive, mais en revanche, la manière dont soi-même on agit et dont on réagit à ce qui arrive n'est pas prescrite. Hein. Le grand exemple du sage stoïcien à l'époque impériale, donc chez Sénèque, voire chez Marc Aurèle et Épictète, même s'il ne le cite beaucoup moins souvent que Sénèque, c'est Caton d'Utique. Et Caton d'Utique, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a résisté à César, il a résisté à l'avènement de l'Empire, il a défendu la République jusqu'au bout, alors que la cause semblait perdue, etc. Hein. Et c'est le grand exemple de stoïcien. Et ceux qu'on appelle les sénateurs stoïciens et qui sont cités... souvent par Épictète, ce sont des gens qui se dressaient d'une certaine manière contre les abus du pouvoir impérial. Hein. Donc on voit bien là que il y a une liberté au sens où le fait d'être en accord avec la nature, d'être en accord avec le destin, c'est essentiellement l'idée que ça ne sert à rien de se plaindre de ce qui arrive, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas différentes manières de faire usage de ce qui arrive, et ça ne veut surtout pas dire qu'on doit se soumettre en quelque sorte à l'histoire ou accepter l'injustice, ce genre de choses, hein, qui est l'objection classique contre le fatalisme.
D'ailleurs, les stoïciens luttent contre l'argument paresseux, qui consisterait à dire que puisque nous nous inscrivons dans une forme de destin, de fatalité, alors rien ne sert d'agir, autant se laisser porter par le cours des choses, ce qui ôte à l'homme toute forme d'initiative et donc de liberté.
Effectivement, le fait de vivre en accord avec la nature n'implique pas une passivité. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que ça arrive, hein, parce que, bon, là, c'est l'argument de Chrysippe contre l'argument de paresseux, hein, c'est ce qu'on appelle les choses. L'action humaine est elle-même prise dans le destin, et donc on doit participer activement, hein, au destin. Et il est hors de question de se tenir dans une sorte de position. Là encore, bon, tout à l'heure on a parlé du retrait, ou dans une position de passivité, hein, sous prétexte que finalement il faudrait accepter tout ce qui arrive sans distinction et sans action de la part de soi-même.
Alors quelle place dans la sagesse stoïcienne ou dans la pensée stoïcienne le sage fait-il à ce qui relève, disons, non pas du sensible, mais du plaisir. Le sage stoïcien, s'il se distingue de l'épicurien, pour qui la première impulsion de l'animal le porte vers le plaisir. Pour les stoïciens, au contraire, le plaisir vient par surcroît. Est-ce à dire qu'une fois que l'homme est parvenu à devenir sage, alors il peut jouir du plaisir d'être devenu sage, ou est-ce que le plaisir est totalement absent de la sagesse stoïcienne ?
Alors c'est vrai que du fait du débat avec les épicuriens, les stoïciens sont surtout connus pour leur critique du plaisir, hein, et ils considèrent, bon, comme ils mettent au principe du bonheur la vertu, ils considèrent, il y a des beaux textes de Sénèque là-dessus, en particulier dans le traité sur la vie heureuse, hein, que donner le plaisir comme guide, c'est soumettre l'âme, là encore, à une forme de passivité, à une forme de dépendance à l'égard de l'extériorité, et ça ne peut pas garantir le bonheur. Donc là, il y a l'opposition classique entre la vertu et le plaisir. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire que le sage stoïcien, ou même le philosophe stoïcien, est, comme on dit parfois dans l'Antiquité, austère ? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se permet jamais aucune des joies de la vie ? Non. Hein. Précisément, la maîtrise que le sage stoïcien a sur lui-même lui permet... Hein, de goûter. Alors je ne dis pas plaisir parce que justement c'est ce dont on a déjà parlé tout à l'heure. Il va dans le cadre de la raison pouvoir s'adonner à certaines activités, hein, qui chez les autres hommes sont des sortes d'abandon ou de formes de perte du contrôle de soi-même, mais lui, il va pouvoir les faire d'une manière rationnelle. Donc effectivement, par exemple, il est dit que le sage stoïcien éprouve de la joie.
Ce qui n'est pas le plaisir quand même ici.
Non, c'est pas le plaisir, mais donc là, je parlais tout à l'heure du fait que le sage stoïcien peut boire, il peut participer à des occasions festives, etc. Il n'est pas nécessairement austère, il ne fait pas toujours, il n'a pas toujours un air sévère, etc. Hein. Alors ça, là encore, hein, là il faut, bon, on peut distinguer entre l'image d'Épinal en quelque sorte du sage stoïcien et les évolutions. Il hein. y a une évolution dans le stoïcisme, et c'est vrai que l'image du sage stoïcien austère, qui fronce les sourcils et qui serre les dents en même temps, hein, puisque bon, c'est une image qui est beaucoup liée au stoïcisme impérial, hein, parce que bon, elle est liée aussi à la culture romaine. À des modèles qui ont été utilisés du sage stoïcien, en particulier Caton. Hein. Caton avait cette réputation d'être extrêmement austère. Hein. Il est toujours décrit comme quelqu'un qui, justement, ne prenait pas de plaisir, était tout le temps attelé à sa tâche d'homme politique très, très sérieux. Alors que quand on regarde les débats des premiers stoïciens grecs, les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'il y a tout cet aspect cynique, tout aussi l'aspect socratique dont on parlait tout à l'heure avec le banquet, qui fait que le stage stoïcien semble avoir une vie beaucoup plus, disons, bigarrée. Hein. Et là, je fais référence non seulement aux descriptions idéales du sage, mais aussi aux biographies, hein, des philosophes stoïciens.
Mais justement, si on parle de la biographie, ce qu'il y a de peut-être de plus frappant dans la sagesse stoïcienne, c'est le fait qu'en droit, du moins, au moins en droit, elle est accessible à tout le monde, puisque la sagesse est une forme de transformation de soi qui doit mener idéalement à une sagesse atteinte. Mais même si celle-ci n'est pas vraiment atteinte, si l'on ne devient pas sage à proprement parler, nous sommes sur le chemin qui nous conduit vers la sagesse. On est ici dans le début de ce qui deviendra ensuite une forme de perfectionnisme moral, de transformation de soi. Et ça, c'est très présent dans les textes qui nous restent des stoïciens, que ce soit Sénèque ou Marc Aurèle. Le ton, la façon dont ils s'adressent en écrivant une lettre à quelqu'un, en rédigeant des formes de mémoire, donne l'impression de tutoyer le lecteur à chaque fois et de lui mettre entre les mains un trésor qui est celui de la possibilité d'une transformation de lui-même par lui-même.
Tout à fait. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que les stoïciens pensent que la philosophie et, disons en dernière instance, la sagesse est accessible à tout le monde. Hein. Il y a la thèse fameuse de Cléante qui dit « tous les hommes ont les ressources pour la vertu et le bonheur hein. ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de nature entre les hommes qui ferait que certains ne pourraient pas devenir vertueux et d'autres pas. Hein. Il peut y avoir des différences liées à leur situation qui empêchent certains, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le bon. Mais voilà. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les hommes. Par exemple, le sage peut aussi être une femme, hein, et il n'y a pas d'exigence liée à la position sociale ou quoi qui conditionnerait le fait de devenir philosophe et sage. Hein, voilà. Mais en même temps, la sagesse est présentée comme, alors pas comme inaccessible, pas comme irréalisable, mais comme en tout cas très rare, très...
Tout le monde peut devenir sage, mais rares sont ceux qui le deviennent vraiment.
Voilà, voilà. Et vraiment exceptionnels sont ceux qui le deviennent vraiment. Voilà. Et de l'autre côté, par exemple, chez Aristote et Platon, il y a une critique de cette exigence trop forte, de cet idéalisme des stoïciens qui nous présente un sage irréalisable, etc. Hein? Mais en même temps, donc on pourrait penser qu'ils sont plus proches. On pourrait dire finalement Platon et Aristote sont plus réalistes, hein, et ils offrent une perspective plus, plus intéressante. Mais d'un autre côté, hein, si on les lit bien, il y a des conditions, hein, pour accéder à la philosophie, qui sont extrêmement drastiques chez Platon et Aristote. Il y a une dimension aristocratique de leur éthique qui fait que tout le monde ne peut pas du tout être, devenir philosophe. Et donc, malgré en quelque sorte le réalisme plus grand de l'idéal qu'on est censé atteindre, surtout chez Aristote, chez Platon, c'est quand même moins le cas, il y a des conditions à l'entrée, en quelque sorte, hein, qui sont d'ordre naturel. Hein, il faut avoir le naturel philosophe, par exemple, chez Platon. Hein, il faut avoir un certain nombre de qualités d'âme et voir des qualités, des conditions sociales qui effectivement rendent la philosophie beaucoup moins ouverte à tous qu'elle ne l'est chez les stoïciens et chez les épicuriens.
Chante, la vie n'est pas méchante, et quand elle nous enchante, il n'est rien de meilleur. Songe qu'il n'y a pas que des mensonges, un peu de courage et plonge dans le fond de ton cœur. Aime en donnant tout toi-même, c'est là le vrai poème, c'est là le vrai bonheur. Et tout le reste, c'est moi qui te le dis, n'est que chiquer, fabriquer, comédie. Et tout le reste, c'est moi qui te le dis, n'est que chiquer, fabriquer, comédie.
Merci beaucoup, ouais. Thomas Benhatouille, d'être venu nous parler de la sagesse stoïcienne aujourd'hui.
Merci à vous.
Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Nancy, en duplex, et donc j'en profite pour remercier l'équipe technique du studio à Nancy qui a rendu possible cette émission. Et puis je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Faire usage, la pratique du stoïcisme », publié aux éditions Vrin.
Et si tes amours mortes parfois te font du chagrin, t'en fais pas, car tu sais que demain tu trouveras d'autres amours sur ton chemin. T'en fais pas, car tu sais que demain tu trouveras d'autres amours sur ton chemin.
La philosophie selon Charles Trenet. Et vous, comment définissez-vous la sagesse? La sagesse n'est pas que l'affaire des philosophes. La preuve, au bout du micro de Géraldine Mosna-Savoie, qui est allée demander au père Blanc de la paroisse Saint-Pierre de Montrouge à Paris ce qu'était pour lui la sagesse.
Pour moi, la sagesse, c'est pour la personne humaine de répondre vraiment, je dirais, à sa vocation. Et la sagesse, c'est d'accomplir son humanité. Je crois aussi que la place centrale de l'amour est assez évidente. Il suffit de regarder tous les films que nous voyons, c'est toujours des histoires d'amour. D'amour ou quelquefois de désamour, mais c'est l'amour qui est au centre de toutes nos préoccupations. C'est l'amour qui apporte l'épanouissement. Et même les journaux People, là, c'est toujours un tel a épousé une telle, c'est le bonheur parfait, et ils sont dans leur piscine. Pour moi, c'est la sagesse, donc, c'est de vivre vraiment ce que nous sommes. Alors, le vivre, je dirais, dans la paix, parce que la sagesse est aussi dans la paix, dans le calme. C'est une espèce d'équilibre, hein, un équilibre qui est donné, mais qui n'est pas acquis, qui n'est pas donné naturellement, qu'il faut, je vais dire, découvrir un peu progressivement, au bout d'un cheminement. Le sage, c'est celui qui a fait un cheminement et qui est arrivé à une certaine maturité intérieure qui fait qu'il va replacer les choses à leur place et vivre justement pour l'essentiel. La sagesse, en fait, ça n'est pas quelque chose dans les nuages, c'est quelque chose qui se réalise concrètement dans la vie de chacun de nous. Mais je ne suis pas plus sage qu'un autre, je suis à la recherche de la sagesse.
C'était la philosophie, là où on ne l'attend pas, en l'occurrence, confessionnelle, au micro de Géraldine Mosna-Savoie. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h50, c'est l'heure de retrouver sans plus attendre François Noodleman pour son journal de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Il est devenu quasiment admis que la nature, et assurément la vie, doit faire l'objet d'une protection. Mais au nom de quelle morale l'humain devrait-il fonder ce devoir? La philosophie de Hans Jonas propose les principes d'une révolution éthique, commentée par des spécialistes dans « L'éthique de la vie chez Hans Jonas », un volume dirigé par Catherine Larère et Éric Pommier aux publications de la Sorbonne. Catherine Larère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite à l'Université de Paris 1 et vous consacrez donc ce volume à Hans Jonas. On pourrait peut-être rappeler un tout petit peu qui est ce philosophe, même s'il est de plus en plus étudié, pas encore en terminale, mais quand même.
Oh, presque, oui, je presque. Crois qu'il y a des extraits. Mais disons, Hans Jonas, on va dire très rapidement, c'est trois choses, si on peut dire. C'est premièrement quelqu'un qui fait ses études à l'Université de Fribourg, sous la direction, entre autres, de Heidegger, et où il est condisciple de Hannah Arendt et du futur Günther Anders. À ce moment-là, il travaille sur la gnose. Et puis, il est juif, il arrive à quitter légalement l'Allemagne. Il va aller en Israël, il va s'engager dans une brigade juive aux côtés des Alliés. Quand il revient en Israël, qui n'est pas encore Israël, il va s'établir en Palestine et puis il va quitter Israël, justement au moment de l'existence de l'État d'Israël, par refus d'une guerre de plus. Il va partir aux États-Unis et c'est là qu'il change philosophiquement. Il s'intéresse, donc on peut dire que c'est le deuxième temps, il va s'intéresser à la philosophie de la vie. Et il est un des tout premiers à se poser des questions sur, disons, les conséquences éthiques de ce qui est en train de se développer en biotechnologie, sur les possibilités de transformer l'homme. Et il s'en inquiète. Et troisième temps, il étend ça. Alors peut-être d'ailleurs en liaison avec Günther Anders et l'interrogation sur le nucléaire, les conséquences possibles du nucléaire. En tout cas, lui, il passe du nucléaire militaire au nucléaire civil. Et il va écrire le livre qui va faire sa célébrité, qui est le principe responsabilité, qui va l'amener à revenir en Allemagne d'ailleurs, hein, puisque auparavant il était universitaire aux États-Unis, et c'est ce livre dans lequel il va lancer toute une thématique écologique et environnementale sur la responsabilité, sur les générations futures, mais aussi sur la catastrophe, et qui est effectivement une philosophie de la vie qui critique Kant, mais qui se situe sur un terrain kantien.
Oui, oui. Alors justement, partons de là, cette critique de l'humanisme kantien, qui sépare trop radicalement la notion de devoir et celle de vie. Et donc, il y a bien quand même la critique d'une sorte d'anthropocentrisme philosophique chez Jonas.
Oh, tout à fait. Je me souviens plus si Jonas emploie le terme d'anthropocentrisme, mais c'est bien ça qu'il critique, l'idée que l'humanité n'aurait moralement rapport qu'à elle-même. Il va finalement inclure, passer de la liberté à la vie et faire émerger la liberté de la vie, et donc rendre la liberté responsable de la vie, ce qui l'oblige sans doute métaphysiquement à un problème de fondation ontologique, et c'est ça qui intéresse les philosophes.
Oui. Ce qui l'oblige aussi à une reformulation de la notion de nature, hein, qui n'est plus un stock de matière disponible ou malléable. Alors j'aimerais vous entendre justement sur ces mots, ces notions, ces concepts, nature, vie, vivant. Comment entendre ces mots?
Alors je crois qu'il réintègre le vivant dans la nature, c'est-à-dire il est critique de Bacon, il est critique du mécanisme, il est critique d'une philosophie de la nature qui réduit la nature à n'être qu'une matière inerte, à la disposition de l'homme, et bon, lecteur de Darwin et adepte de la théorie de l'évolution, il cherche à prendre philosophiquement en compte la vie, et pour ça il remet de la finalité dans la nature, qui du coup est aussi une nature vivante, c'est pas une nature inerte, et donc nous avons un devoir vis-à-vis de la nature,
disons. Alors en proposant la vie comme valeur, ne risque-t-il pas d'aller dans une extension incontrôlable? C'est-à-dire, faut-il respecter l'animal, le végétal, la protection de toutes les espèces? À quel devoir conduit-elle?
Alors, disons, c'est toute la discussion qui a entouré la réception d'Iona. C'est de ce point de vue-là, on peut dire, à mon avis, on progresse. C'est-à-dire qu'on ne se met pas à pousser des hurlements en disant « bon, ça va être contre l'homme, ça va être une soumission de l'homme à la nature ». On essaie d'examiner les choses. Alors, c'est sûr que ce sur quoi Jonas met l'accent, il n'est pas le seul, c'est sur la vulnérabilité. Donc, nous sommes responsables d'une nature vulnérable que nous avons contribué à fragiliser. Ça ne veut pas dire qu'il oublie l'homme. L'homme est au contraire un élément de la nature.
Et d'ailleurs, une sorte de détournement de la formule kantienne, cette phrase de Jonas, « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. »
Alors, deux choses. C'est l'attention aux effets, ce qui n'est pas du tout kantien, puisque ce n'est pas une déontologie, c'est un conséquentialisme. C'est un conséquentialisme qui a une formule, mais ce n'est pas étonnant. Et surtout, l'insistance sur authentiquement humaine. C'est-à-dire, ce n'est pas un philosophe de la survie. Si on reprend un autre philosophe comme Agamben, ce n'est pas du tout la vie nue qu'il défend. C'est une vie authentiquement humaine. Et je pense que pour lui, une vie authentiquement humaine, il peut y avoir aussi des vies authentiquement animales, si je peux dire.
Mais alors justement, il continue à penser l'exception humaine. Mais alors l'exception humaine, c'est non pas son arrachement à la nature, mais c'est sa responsabilité à l'égard de la vie en général.
On peut dire son attachement.
Oui.
Je crois que Jonas trouve quelque chose qu'ont trouvé d'autres philosophes ou des gens qui ont travaillé sur ces questions. Je pense à Augustin Berg et à la médiance. L'idée que finalement, nous ne sommes pas séparables de notre milieu de vie et que donc, nous, prendre en compte, nous les humains, c'est prendre en compte l'environnement dans lequel nous sommes.
Mais alors, malgré tout, cette notion de responsabilité, elle est présente et vous semblez suggérer que le paradigme de la responsabilité, il est lié à la médecine. C'est notamment dans la question de la santé, vous avez parlé de la vulnérabilité. C'est la santé qui est peut-être le modèle, non?
Alors, c'est la santé, c'est la capacité à vivre. Il y a un article de Sylvie Courtine que je trouve intéressant, où elle rapproche Jonas de Arendt sur l'intérêt pour la natalité, pour la naissance, et contre Heidegger, c'est pas un être pour la mort, l'homme est un être qui naît, et le modèle, c'est le bébé, c'est le nouveau-né vulnérable, c'est qui devant lequel on est responsable.
Et les bébés à naître aussi, puisqu'il y a cette notion de génération, de responsabilité pour les générations futures. Est-ce qu'on peut dire que le principe de précaution, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, il est hérité de Hans Jonas?
Oui, je crois qu'on peut dire, en tout cas, le principe responsabilité est publié en allemand en 1979, au moment où il y a les premières conduites de précaution justement en Allemagne. Alors à partir de là, il y a différentes interprétations possibles de la précaution, mais l'idée d'un devoir de savoir, elle vient de Jonas.
Merci Catherine Larère. Je rappelle donc le titre de ce volume collectif que vous avez dirigé avec Éric Pommier, L'éthique de la vie chez Hans Jonas, paru aux publications de la Sorbonne.
Merci beaucoup François, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve non pas demain d'ailleurs, mais lundi, car demain, comme tous les vendredis, ce sera Philippe Petit au micro des nouveaux chemins. Philippe Petit qui vous parlera du désir dans tous ses états chez Jacques Lacan, en présence de Jacques-Alain Miller et de Clotilde Le Guil. Quant à nous, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine. Nous sommes là jusqu'à la fin du mois de juillet. La semaine prochaine, nous vous proposons une série d'émissions sur Jean-Paul Sartre. Le garçon de café, le joueur de football, l'intellectuel, l'humaniste. Quatre personnages sartriens qui vont vous accompagner jusqu'à jeudi. Et puisqu'il me reste quelques secondes avant de rendre l'antenne, je souhaiterais vous faire part d'une bien triste nouvelle qui m'est parvenue hier. Le philosophe Raymond Trousson, spécialiste de Rousseau et de Diderot, nous a quittés le 25 juin dernier. Certains d'entre vous gardent sûrement en mémoire le timbre polyphonique de sa voix, ses talents de conteur hors pair et l'immensité de son savoir qu'il transmettait avec passion et générosité. Adieu donc à Raymond Trousson, que tous ceux qui ont eu la chance de le croiser ou de l'entendre chérissent son souvenir le plus longtemps possible. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour maintenant.